Le nouvel album du groupe Le Trottoir d'en Face est disponible et s'intitule Multiplex. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Ça va bien, en pleine forme?
Ça va, super.
Dans le groupe, tu es le chanteur.
C'est moi, ouais, exactement.
Tes cheveux couleur lilas, j'en vois moins par ces temps-là. Pourtant c'était joli, Lisa. Des chants de truites en grenat qui vont s'emparer de voix. J'en vois moins ces temps-ci, Lisa. J'en vois moins, mais je sais, Lisa, où il y en a. La nuit je lis, je pars à haute voix dans le Montana. La nuit je lis, je pars à haute voix dans le Montana, Lisa.
Ouverture de l'album avec le titre 20 heures sur la ville. Vous vous êtes dit comment une ville vit et ses habitants à 20 heures un soir d'hiver?
Ouais, disons que on a eu envie sur ce titre-là d'envoyer de raconter une histoire sans dire beaucoup de choses. Et du coup, on a pris juste des images comme ça qu'on a piochées dans tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans une ville, effectivement, à 20 heures là, quand d'un côté certaines personnes s'animent, d'autres rentrent chez eux. Voilà, et on a empilé un peu les images comme ça, histoire de faire un petit roman photo avec des mots, et c'est comme ça qu'on a décidé d'ouvrir l'album, ouais.
C'est plutôt un soir d'hiver, non?
Oh, ça, je sais pas.
Je l'ai compris comme ça.
Ouais, chacun fait l'interprétation qu'il veut. Je crois que on s'est pas spécialement dit que c'était un soir d'hiver, un soir d'été. C'est vrai que la chanson est assez nostalgique, donc elle véhicule quelque chose d'assez routinier et en même temps poétique, je crois. Et c'est surtout que cette chanson, en fait, elle représente un petit peu tout ce qu'on a voulu dire dans cet album, dans le sens où ben voilà, l'album s'appelle Multiplex parce que il y a énormément de choses différentes à l'intérieur, d'influences différentes.
On est bien d'accord.
Donc en racontant cette histoire-là sur 20 heures sur la ville, en montrant entre guillemets des personnalités différentes, voilà, on ciblait un peu cette esthétique-là, quoi.
Un réverbère épileptique, un gyrophare de flic. Les enseignes géantes et leurs lettres manquantes. Les bureaux qui s'éteignent et le veilleur de nuit. Le halo des sirènes, les secours de sortie. 20 heures sur la ville, ses lumières mille et une. 20 heures sur la ville, nos chimères sous la lune. 20 heures sur la ville, ses lumières mille et une. 20 heures sur la ville, mille et la lune.
Vers toi, une histoire de folie par amour. Est-ce que j'ai bien compris le texte?
Ouais, c'est ça. Voilà.
Même si c'est très imagé, ça m'a fait penser exactement à ça. Un mec un peu,
ouais,
un mec ou une nana d'ailleurs, un peu fou, mais par amour.
On est là-dedans. Il y a un côté dans Vers toi, il y a un côté un peu comment dire, fataliste et en même temps lucide, je crois. Et c'est des sentiments effectivement qui peuvent émerger d'une histoire d'amour et tout ce que ça raconte, c'est que ben c'est quelqu'un qui chante que son cœur bat, qui l'entend battre, mais il a l'impression qu'il bat pour rien, en fait. Voilà,
c'est pour ça qu'il devient un petit peu fou.
Un peu fou, ouais. Tout à fait.
Château d'enfant, la mère est vue comme un homme avec un grand H, homme plutôt prédateur, j'ai trouvé.
Alors les châteaux d'enfants, en fait, c'est dans cet album, il y a beaucoup d'esthétiques qui sont très très cinématographiques, alors qu'on a essayé de raconter des histoires juste avec les musiques qu'on utilisait. Et les châteaux d'enfants, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a voulu recréer une scène de film dans laquelle effectivement on personnifie un peu la mère et on imagine qu'on est le jour où, alors c'est pas très très joyeux, hein, mais on imagine être le jour où où la mer
engloutit la ville
et engloutit la terre tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle les châteaux d'enfants. En fait, les châteaux d'enfants étant les châteaux de sable. Et voilà, on a voulu imager ça de cette manière-là. Donc voilà, ouais, c'est ce qu'on a voulu raconter dans cette histoire.
Il y a un côté tout de même écolo dans ce titre.
Ouais, alors il y a un
côté. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, non?
Disons que je sais pas s'il y a un côté écolo. En tout cas, parce que souvent on essaie, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Je crois surtout qu'on a essayé de raconter quelque chose, à savoir que on en est là, on est en 2018, on sait ce qui va dans notre monde, cher monde actuel, on sait un petit peu ce qui va pas non plus. On a juste raconté que on a juste raconté une scène dans laquelle la mer en fait s'échouait et recouvrait la terre. Alors du coup forcément ça interpelle dans le sens où c'est des problématiques qui, plus on va avancer dans le temps, plus elles vont être présentes.
C'est pour ça que j'en parle.
Ce qu'on fait jamais dans nos titres, et on le fait pas non plus dans celui-là, c'est que on montrera jamais certaines choses du doigt. On dira jamais faites ci, faites ça, soyez écolo, soyez machin, soyez truc. On fait que raconter des histoires. Après, effectivement,
c'est l'interprétation.
La morale voudrait que les gens se disent « Ah mince, ce serait quand même con que ça arrive un jour. »
Exactement,
donc, ouais. Donc, un comportement un peu plus bienveillant en face de ça. Mais en tout cas, on le dit pas. Chacun en fait l'interprétation qu'il veut.
Le titre Montana, un appel au voyage, voir si c'est mieux ailleurs, c'est même une histoire d'amour. Ça mêle les deux sentiments, le voyage et l'amour.
Alors, le Montana...
Non, pas du tout.
Une histoire un peu à dormir debout, parce que on a voulu faire un titre à double lecture et piéger, entre guillemets, un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est un titre qu'on peut pas comprendre si on n'a pas l'explication.
Ah ben tu veux nous expliquer alors.
Je vais vous la donner.
Très bien, merci beaucoup Benoît.
Montana, c'est un titre en fait qu'on a écrit en référence à un roman qui s'appelle La pêche à la truite en Amérique de Richard Brautigan, qui était un auteur qui était dans les années 60, une figure emblématique du mouvement hippie. Dans son livre est complètement absurde en fait, c'est-à-dire que la pêche à la truite en Amérique, c'est l'histoire de quelqu'un qui pêche, mais pour pêcher il va dans un magasin, il achète un ruisseau, enfin voilà, il y a que des choses un petit peu improbables dans ce livre. Et cette personne étant la figure emblématique de par son absurdité et sa manière d'écrire du mouvement hippie, on a décidé en fait de prendre plein de références au bouquin pour en faire une double lecture, à savoir qu'une fois qu'on a ces références-là et qu'on écoute Montana, la seule chose qu'on essaie de dire dans cette chanson, c'est que le mouvement hippie n'existe plus au sens philosophique du terme. Et que c'est malheureux en fait, et c'est tout ce qu'on a voulu en fait mettre en avant là-dedans. Alors au travers d'une histoire d'amour, ouais effectivement, mais ce qu'on essaie de raconter, voilà, c'est que des fleurs bleues dans les cheveux, y en a moins en fait. La chanson commence comme ça, et que malheureusement aujourd'hui les révolutions se font de manière de moins en moins pacifique à notre goût.
C'est pour ça qu'en écoutant pour une première fois le titre Montana, on a l'impression que c'est aussi un titre un petit peu écolo. Comme tu nous parlais de fleurs dans les cheveux qui n'existent pratiquement plus.
Écolo, non. Je crois
non, voilà.
Cas, nous, quand on parle de fleurs bleues dans les cheveux, on parle surtout en fait, c'est une histoire de style, quoi.
Non, parce que vous parlez de chant aussi dans ce titre.
On parle de quoi, pardon?
De chants, oui.
Ouais, c'est exactement ça. Les chants de truite en grenat, en fait, c'est une référence au bouquin.
Voilà. Comme ça, moi.
Tout simplement.
Merci de cette explication, Benoît.
Voilà. Avec plaisir.
Mustang, un titre rapide dans la façon de chanter. Vous parlez de mort, non? Je l'ai compris comme ça.
On a tous vécu un jour, qu'on le veuille ou non, qu'on soit intrépide ou pas, qu'on soit responsable ou pas. On a tous eu à un moment donné comme chaque enfant en fait, l'envie de dépasser un peu la ligne rouge ou l'envie de voir jusqu'à combien sa voiture est capable de rouler sur l'autoroute ou l'envie de prendre un risque ou de sauter en parachute, j'en sais rien. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans cette chanson. Alors, on commence toujours par faire nos musiques avant d'écrire les textes. Et quand on a fait cette musique-là, qui a un côté un peu rock'n'roll à l'ancienne, et en même temps qu'on a essayé de rendre le plus moderne possible, et encore une fois, dans lequel on a rajouté des cordes pour faire plus cinématographique, etc., etc. Mais en fait, voilà, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas raconter tout simplement une course un petit peu folle,
quoi, oui, complètement,
avec une voiture et tous les codes à l'ancienne, quoi, qu'on pourrait trouver. Et ouais, Mustang, en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est juste l'histoire de quelqu'un qui se prend pour un cow-boy un jour avec sa voiture, qui la prend pour un cheval et qui a l'impression de faire qu'un avec cet objet-là et qui dévale la route le plus vite possible.
Le plus rapidement possible.
Ouais, malheureusement, à la fin, il y a quand même des crissements de pneus.
C'est pour ça que je te parle de mort, ici.
Ça va un peu en sucette. Mais non, l'idée, en fait, de la mort à la fin, ou du moins du fait que l'issue de la chanson soit pas forcément joyeuse, c'est juste qu'il fallait qu'on trouve des revirements de situation et qu'on fasse avancer le récit et que ça faisait bien à cet endroit-là, on trouvait de faire en sorte que qu'il y a un petit imprévu, on va dire.
C'est toi qui écris tous les textes pour le tour d'en face?
En coécrit, en fait, avec une personne qui s'appelle Fabrice Lamerin, qui est d'Orthez aussi, puisqu'on est d'Orthez à côté de Pau dans le 64. Et il est cafetier, en fait, et c'est une personne qu'on a rencontrée il y a quelque temps avec le reste du groupe, et puis on s'est rendu compte que cette personne était capable de dire en quatre mots ce que nous on disait en huit, et donc voilà, on a commencé à écrire avec lui il y a un petit moment déjà. Et sur cet album, ce qui a été génial dans la collaboration avec Fabrice, c'est que on a vraiment utilisé une écriture très musicale, c'est-à-dire que nous on participait à l'écriture aussi, mais dans la résonance des mots, dans l'utilisation de certaines syllabes plutôt que d'autres, dans la métrique, dans le nombre de syllabes, voilà, c'était très anglo-saxon en fait comme manière d'écrire, tout en gardant suffisamment de recul de sa part pour pouvoir avoir un texte le plus poétique et cohérent possible, quoi.
Initial, le titre, c'est une histoire de rencontre furtive ou une histoire d'amour fini? Je me suis balancé entre les deux sentiments.
C'est une très bonne question. Je crois que la réponse, on l'a pas vraiment. C'est avant tout une prise de risque, parce que musicalement, en fait, on est parti dans un style sur ce titre qu'on n'avait jamais trop exploré. Et le fait de partir dans ce titre-là, encore une fois, c'est un petit peu comme 20 heures sur la ville. En fait, on a eu envie de cerner des images et des situations qu'on voulait raconter, et naturellement, on sait pas pourquoi est venue cette idée un peu de luxe, dans le sens, enfin voilà, on a c'est le côté un peu à amour déchu, mais dans le sens fantasmatique du terme, quoi. Les moments où dans la rue on va être attiré par un parfum ou par quelqu'un, une personne qui va dégager tout d'un coup un charisme en quelques secondes, qui va nous transpercer. Enfin, c'est ça qu'on a essayé de raconter là-dedans, en tout cas.
En écoutant ce titre, j'ai eu l'impression de voir une femme ou une jeune femme assez riche, tout de même.
Ouais, c'est ça.
Qui s'aime, qui s'adore.
Disons que le refrain, c'est cette garce à la classe, et il y a ce petit côté-là qui forcément renvoie au luxe, et qui fait que on a tous des moments comme ça où il y a des personnes qu'on fait semblant de détester parce que ça fait bien et qu'on a l'impression que c'est pas qu'elle véhicule pas exactement nos valeurs, et malgré tout en ruminant dans notre barbe, on est obligé d'admettre à certains moments que qu'ils ont quand même ces personnes-là ont quand même la classe, ou quelque part qu'on les envie ou qu'on les jalouse. Là, c'est un peu ça, quoi. Il y a tout ça qui est mélangé, je crois, dans Initial.
Autre histoire d'amour finie ou pas, ou d'un lieu d'ailleurs, ou d'une personne, on sait pas trop. Vol de nuit, non?
Ouais, c'est ça.
C'est très imagé, là aussi. Est-ce que tu es d'accord
avec
ça, Benoît?
Très imagé. Tout est assez imagé. Mmh. On aime bien, en fait, nous donner aux gens des mots et des versions des choses qui font que chacun peut encore interpréter à sa manière.
Se balader dans les titres.
Mmh. Ouais, voilà. Et puis, je crois que... Enfin, quand je dis « je crois », c'est vraiment très personnel. Hein, c'est que je crois que quand on fait de la musique pour rassembler, il faut tout de même avoir être suffisamment évasif justement pour pouvoir faire en sorte que chacun ait une résonance dans ce qu'on raconte. Et Vol de nuit, c'est un peu ça. Disons que on peut imaginer qu'on parle de deuil. Il y a énormément de choses qui peuvent sortir de ce titre-là. Toujours est-il que on est là-dedans, quoi. On est dans les sentiments, dans l'image, dans la métaphore de tous ces moments-là, quoi.
My Love, ce boxeur existe-t-il vraiment?
Alors non.
Non.
Par contre, figurez-vous que on a découvert il y a quelque temps que, à force de faire les andouilles et d'imaginer ça, en fait, c'est une BD aussi, hein, qui raconte ce principe-là, mais que ce sport avait réellement été créé, à savoir le chess boxing, joué aux échecs sur un ring de boxe. Et combiner les deux sports. Voilà. Alors, sur la BD, ça nous avait paru complètement fou. Mais du coup, donc Fabrice nous avait dit, tiens, j'aimerais bien partir dans un délire comme ça, avec une ambiance très industrielle et tout. Donc forcément, on a foncé, hein, sinon le titre n'existerait pas. Et voilà. Et à ce côté, effectivement, un peu fou, quoi. Il y a des choses comme ça qui, en fait, c'est vraiment le délire. My Love, c'est vraiment un délire, à savoir que c'est un peu comme les reportages du Groland, quoi. C'est des concepts qui sont complètement abstraits, qui sont complètement ravagés dans l'idée, mais qui sont faits avec tellement de réalisme et d'envie et de second degré
qu'on se dit ça peut être vrai.
Y croire, quoi. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire. On a voulu faire un titre très sérieux, très terne dans la manière de l'interpréter, et en racontant l'histoire effectivement de quelqu'un qui s'appelle My Love et dont la discipline principale dans la vie est de jouer aux échecs et tout en faisant des combats de boxe en même temps. Et voilà.
Sieste à Londres, tu parles et vous parlez des migrants.
Tout à fait.
Ouais, simplement.
Ouais, voilà, on a trouvé. Il y avait ce jeu de mots. Et c'est vrai que ça fait partie des sujets qui sont délicats à traiter, tout comme les sujets qui sont un peu tabous dans notre pays et qui divisent. Malgré tout, voilà, on fait de la musique pour rassembler les gens. Et on s'est dit, c'est un peu facile d'utiliser que des sujets qui rassemblent.
Pardon.
Comment de temps en temps traiter des sujets un peu délicats, comme la fin du monde de par le réchauffement climatique, comme on l'a fait sur Château d'Enfant, ou comme les migrants. Et du coup, l'angle qu'on a trouvé, c'était tout simplement, à la manière d'un film, en fait, de rentrer dans un personnage et déjà d'avoir une musique derrière qui est suffisamment enjouée pour faire en sorte on ait envie de taper du pied. Et derrière ça, voilà, on raconte tout simplement l'histoire de quelqu'un qui, de par son quotidien, rêve que d'une chose, c'est de faire une sieste à Londres.
Mais vous le faites d'une manière très poétique. C'est le but aussi de ce groupe, le trottoir en face.
On essaye.
Alice, une histoire de deux drogués.
Ouais.
Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Ça m'a fait froid dans le dos ce soir, hein, Benoît, franchement.
Ouais, c'est vrai. Bon. je sais pas trop. Alice, c'est surtout... comment résumer ça de manière très simple?
Est-ce que c'est l'histoire de deux drogués? Non, pas du tout.
Ouais, c'est l'aiguille d'une seringue d'héroïne qui parle à la personne qui va en prendre et qui est complètement accro, donc Alice en question. Et l'idée aussi, et c'est je crois ce qui fait froid dans le dos dans la manière dont elle est interprétée, dont elle est posée sur l'album, c'est que c'est surtout Alice qui est en train de s'imaginer que son aiguille lui parle, en fait. Et il y a ce côté complètement pervers, puisque son aiguille lui dit des choses atroces et qu'en même temps on est entre le j'y vais pas,
Alice a des doutes.
Alice a des doutes, alors
heureusement pour elle.
Sinon ça va être inquiétant. En fait, c'est le seul texte que j'ai écrit sur l'album, celui-là. Je l'ai écrit le jour en fait où j'ai appris, parce que voilà, on en apprend tous les jours, même des simples, que le dessin animé Alice au pays des merveilles, dont je suis assez fan, racontait en fait en seconde lecture, ça parlait de drogue, pardon. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre cette histoire. Je me suis un peu rencardé. Et en fait, voilà, j'ai essayé de recréer, et dans le texte, et dans le, et dans la musique un petit peu ce que Walt Disney avait essayé de faire dans ce dessin animé là, avec ce côté un peu fantastique en fait, quelque part. Et complètement hallucinant en fait au sens premier du terme.
Mais l'ambiance du titre est très noire aussi.
Est-ce que tu es d'accord avec ça? L'ambiance déjà la voix elle est traitée de manière absolument dégueulasse. On a l'impression qu'il y a de la friture dans le câble.
J'ai eu l'impression que c'était mon ordinateur qui buguait, mais à la deuxième écoute, non. Donc c'était la même chose. Donc voilà.
Qui en a fait écouter, qui nous ont dit il faut me renvoyer à Alice parce que j'ai un problème avec la voix.
Ben voilà, comme quoi.
Mais c'est drôle du coup parce que c'est un petit peu l'effet qu'on a recherché quoi.
Un effet réussi alors.
Ouais, c'est vraiment un effet de style. Enfin c'est complètement assumé. Alors il y en a qui ça agresse vraiment et qui nous disent tout de suite non moi je peux pas, c'est trop. Et en même temps, voilà, ce titre, il est censé déranger un petit peu, et ben, pour déranger, il y a aussi des partis pris à avoir dans la prod ou dans l'arrangement, qu'on a essayé de mettre en place à côté de ça, quoi.
Les voix d'enfants, c'est pour amplifier ou adoucir le texte?
C'est pour le rendre surtout plus gênant.
En fait. Ok, bah voilà. Moi ça c'est clair.
C'est surtout ça. Hein? Ouais, c'est surtout ça. C'est que, les voix d'enfants, en fait, sur le refrain, elles emmènent ce côté très enfantin dans la réflexion et en même temps complètement innocent dans un sujet qui l'est pas du tout quoi. C'est pas une prise de risque mais c'est vraiment volontaire en tout cas pour ça. On était convaincus en faisant ça que ça le rendrait beaucoup plus gênant.
Et beaucoup plus noir. Oui, on est bien d'accord. Tes camarades de jeu te suivent et vous suivent depuis 12 ans. C'est toujours les mêmes?
Ouais, toujours les mêmes. Enfin, on a démarré la musique il y a 12 ans, donc on s'appelait à l'époque les Landas. Et les 5 entre guillemets membres fondateurs de ce groupe-là, on est toujours sur scène ensemble, ouais, aujourd'hui, et on fait toujours partie du trottoir d'en face.
Benoît, Cyril, Thomas, Clément.
Benoît, c'est moi. Oui. Cyril, c'est mon petit frère, qu'on appelle, tout le monde l'appelle Kiki, qui est donc forcément là depuis le début aussi.
Guitare chant.
Il y a Clément, le batteur, il y a Gaëtan, le trompettiste, et Florian, le saxo, qui sont là depuis le début. Voilà. Et après, il y a eu un petit turnover, mais l'équipe avec laquelle on joue aujourd'hui, en tout cas, on est déjà la même depuis presque 6 ans ou 7 ans. Donc voilà, ça tourne quoi. Enfin, on se connaît suffisamment, disons, pour savoir d'où on vient avant de savoir où on va.
Et chacun amène ses idées, que ce soit pour la musique ou pour les textes.
Non, on peut pas.
Non, vous pouvez pas.
Ça, c'est complètement utopique de faire ça. On est 8, chacun travaille de son côté musicalement, chacun a des goûts et des affinités musicales qui sont complètement différentes. Du coup, depuis le début, en fait, c'est plus ou moins établi qu'on fait les musiques avec Kiki, donc mon petit frère, et par contre voilà, aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'une fois qu'on a terminé notre chanson, en fait chacun va y emmener son grain de sel, mais dans la création en tout cas c'est très compliqué de faire participer tout le monde.
Une tournée qui se prépare actuellement, une belle tournée.
Ben ouais, c'est cool.
On vous retrouve notamment à l'Alaise Festival à Esnay le samedi 9 juin prochain.
Ouais. Tout à fait.
Entre autres, et on retrouve toutes vos dates sur letrottoirdenface.fr. Est-ce que vous êtes très réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram? Parce qu'il faut en nommer 3.
Alors Facebook, oui.
Ouais.
Parce que on va dire qu'on a un peu grandi avec, donc on l'utilise, mais on l'utilise surtout pour faire les cons et pour balancer des trucs comme ça de temps en temps. Après tout le reste, tout ce qui est très télé-réalité, en fait, ça nous intéresse pas du tout. Savoir que le format du tweet qui emploie que je sais plus combien de mots et qui fait que
140 caractères de tête.
Ouais, voilà, que ça devient vite bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de manger vegan et le lendemain j'en sais rien, mon vélo à la roue crevée. C'est pas trop le genre d'information qu'on veut partager. Donc disons que quand on a enfin Twitter, on l'utilise pas du tout clairement, je crois qu'on a même pas de compte. Si quelqu'un veut en créer un et se faire passer pour nous, qu'il n'hésite pas.
Carrément, même pas peur, tout va bien.
Et après on a Instagram parce qu'il paraît que c'est bien d'avoir Instagram, donc.
Vous postez souvent des photos.
Ouais, en fait on en publie quand défense, je suis un peu tapé sur les doigts, du coup, c'est pas le bon mot, mais la maison de disque ou d'autres personnes qui nous suivent nous font la réflexion, ah, dis donc, vous mettez jamais de trucs sur Instagram ou quoi, et du coup, en fait, on en met un ou deux pour, en se disant, ah ouais, c'est vrai, on va s'y mettre. Et une semaine plus tard, c'est déjà terminé. Non, ouais, on a un peu de mal avec ça.
Avec les réseaux sociaux.
On a un peu de mal avec ça, et voilà, c'est comme ça. Après, ça fait partie de notre éducation, on va dire. On n'est pas très télé-réalité. Du coup, tout ce qui touche un peu au voyeurisme, puisque j'estime, après chacun son avis, que la frontière, du moins pour nous, est mince entre l'un et l'autre, on essaie d'éviter.
Vous préférez la scène?
Ah ouais, ça clairement. Oui. Non, là par contre, une fois qu'on est sur scène, même si en fait, on le voit ça, par rapport aux réseaux sociaux et ça, plus on gagne un peu en notoriété avec le groupe, plus on monte sur scène et plus il y a de coques en plastique. Qui se dresse devant nous quand on monte sur scène. Et c'est je sais pas, j'ai un peu de mal avec tout ça.
Ça s'entend.
J'ai un smartphone comme tout le monde, parce que c'est pratique. Disons que, ouais, on aime bien raconter cette histoire avec le groupe, parce qu'elle est vraie et que je trouve qu'elle représente bien la chose. Nous, on vient donc d'Orthez. Orthez, qui est une ville connue pour le basket et qui a connu des heures absolument magnifiques avec des coupes d'Europe à la clé, etc. Et ce qui est génial, c'est que nous, en fait, on n'est pas du tout de cette génération-là, et donc on connaît le basket par les récits qu'on nous en fait aujourd'hui de nos parents, nos grands-parents, etc. Mmh. Et à l'époque, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de smartphone, et du coup, souvent, on sait très bien que les histoires qu'on nous raconte sont complètement amplifiées, et que ça s'est pas exactement passé comme ça, et qu'il y a un côté beaucoup plus mystique aujourd'hui qu'à l'époque. Mais il y a une telle brillance dans les yeux de ceux qui veulent bien nous raconter comment c'était à l'époque, que on se dit...
Il reste une part de magie, quoi.
Aujourd'hui, on passe un peu à côté de ça, quoi, à certains moments, puisque... Quand on va voir un concert, très souvent, les vidéos, on les retrouve derrière sur Internet, parce qu'il y a des captations qui sont faites de plus en plus, etc. Donc c'est un peu dommage de vouloir à tout prix rentrer à la maison avec une vidéo et un son tout pourri sur son téléphone, alors qu'en racontant les yeux dans les yeux, les choses dont on se souvient et la manière dont on l'a vécu, on estime que c'est beaucoup plus fort comme souvenir, voilà.
Et que la magie opère plus facilement, peut-être.
Ouais, voilà. Ouais, disons que c'est. Puis en fait, moi, parce que c'est un peu comme ça que je vis les choses aussi. Du coup, quand je vais voir un concert ou que je vais quel que soit l'autre moment, voir un match de foot, j'en sais rien. C'est que des fois, en fait, les choses dont on se rappelle ou les choses qui nous marquent sont des détails mais complètement absurdes.
Insignifiants peut-être.
Ils vont créer la magie et on va se rappeler toute notre vie de ce détail-là. On va se rappeler que tel jour, quand on a été à ce concert-là, à tel morceau, le batteur, il a explosé sa baguette et ça a failli partir dans la tête du bassiste, et les deux, ils ont explosé de rire, enfin, j'en sais rien. Et c'est de ça qu'on va se rappeler, et pas du morceau qu'on aurait dû filmer sur son téléphone, ou j'en sais rien, pour aller le montrer derrière au boulot ou ailleurs.
Ou que donc, tout le monde applaudit pour dire, on y était, c'était bien, écoutez plutôt.
Exactement.
Benoît, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne tournée.
Vois-tu où nous a mené le combat, Alice? Vois-tu les loups derrière toi? Crains-tu les cauchemars d'antan, Alice? Du temps où tu m'ouvrais tes bras. Il faudra peu qu'on se souvienne, Alice, les quilles tombaient de tristesse. Quand tu pensais manquer de veine, Alice, et que mon aiguille était là. Sens-tu le diable dans mes mots, Alice? Sens-tu ton front perlé de froid? Dire que le sevrage a du bon, Alice, c'est languir la prochaine fois. Car tu m'aimes à petite dose, Alice, tes yeux me le font bien savoir. Quand il me bouffe, je t'enclose, Alice, dans mon plus funeste couloir.
Lisse, peau de bois, il n'y aura aucun reste. D'Alice, peau de moi, perte et fracas.
Respire à plein poumon le gaz toxique et glisse tout doucement vers tes abysses. Ton corps a la fièvre ataxique, Alice, alors que ton esprit s'en va.